Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lodève pour la toute première émission au Conseil de famille de cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres, les parents face au jugement. Et pour parler de ce thème, nous accueillons Anne-Marie Stams, coordonnatrice du PRE, Programme de réussite éducative au CCAS de Lodève, Maud Fréchou, psychologue de l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault, Léa Baltus, accompagnante à la parentalité et formatrice en éducation relationnelle et émotionnelle de l'association Grandir Ensemble. Bonjour.
Bonjour.
Et bonne année à toutes.
Merci.
Alors aujourd'hui, un thème sur les parents face au jugement, le regard des autres. Les parents d'aujourd'hui ont tendance à se mettre beaucoup de pression afin d'être la meilleure mère ou le meilleur père possible. Il est facile pour les parents de se comparer aux autres et de se sentir moins compétents et d'être touchés par les remarques extérieures. Un des grands facteurs de stress pour les parents d'un enfant et encore plus d'un enfant aux besoins particuliers est le regard des autres. Alors dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe et comment faire face au jugement et aux commentaires des autres sur votre enfant. On va essayer de donner aussi quelques conseils avec nos spécialistes. Et nous allons tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, écouter un micro-trottoir que Anne-Marie Stams a réalisé.
Oui, effectivement, je suis allée devant une école aujourd'hui, ce matin, dans le froid, pour poser des questions aux parents, justement. Voilà, ce jugement, ce regard des autres. Et puis, j'ai aussi pu faire de petites interviews plus poussées pour recueillir un petit peu le sentiment des parents.
On écoute.
Bonjour, donc vous êtes une maman.
Oui.
Vous avez combien d'enfants ?
3.
D'accord. Votre enfant fait une crise en public. Comment vous gérez le regard des autres ?
Je m'en moque. Enfin, ça va. Je regarde pas trop, voilà. Je gère les caprices de mes enfants, voilà.
Les conseils des autres parents ou famille ou entourage vous agacent-ils ?
Ah non, pas du tout, je prends en compte.
Ouais, d'accord.
Je m'en prends en compte.
Merci. Bonjour, donc vous êtes parent ?
Oui.
Vous avez combien d'enfants ?
4.
Votre enfant fait une crise en public, comment est le regard des autres ?
On s'en fiche. On gère plutôt la crise et c'est comme ça que je fais.
Le conseil des autres parents, femmes ou famille, entourage, est-ce qu'il vous agace ?
Ça peut m'agacer, ouais.
Pourquoi ?
J'aime bien décider de l'éducation des enfants. Ça.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée. Bonne journée
et bon courage.
Merci. Bonjour, donc vous êtes une maman ?
Oui.
Vous avez combien d'enfants ?
Un enfant.
Votre enfant fait une crise en public. Comment vous gérez le regard des autres ?
Moi, personnellement, je ne fais pas trop attention. Je reste focus sur ma fille. En général, en discutant, ça, j'arrive à la calmer.
Les conseils des autres parents ou famille, entourage, est-ce qu'ils vous agacent ?
Conseils, non. Si c'est bienveillant, il n'y a pas de souci.
Bonjour, donc vous êtes maman. Vous avez combien d'enfants ?
J'ai un enfant qui est grand. Il va avoir 28 ans.
Quand votre enfant était petit et qu'il faisait une crise en public, comment vous gérez le regard des autres ?
J'étais très gênée vis-à-vis des regards des gens autour de moi. C'était difficile de se positionner quand même avec du public.
Vous avez eu des réflexions parfois ? Il mériterait une claque ou il est mal élevé ?
Non, pas du tout.
Et les conseils des autres parents ou famille ou entourage, est-ce qu'ils vous agacent ?
Oui, c'est agaçant, surtout quand on se permet de vouloir inculquer une façon de faire, alors que bon, parfois, eux font pas mieux, quoi.
Vous avez combien d'enfants ?
3.
Ils ont quel âge ?
24, 22 et 13.
Votre enfant fait une crise en public. Comment vous gérez le regard des autres ?
Je ne les regarde pas. Je regarde mon fils et j'essaye de le calmer tout en étant calme, moi aussi.
Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions des gens qui vous entourent ?
Oui, ça m'est arrivé. Oui, complètement. J'y ai pas porté attention plus que ça. J'ai joué l'indifférence.
Mais vous êtes senti comment ?
Jugée en tant que maman sur ce que je fais ou pas, ou je fais pas.
Les conseils des autres parents ou famille ou entourage, est-ce qu'ils vous agacent ?
Non, pas forcément. Ça peut être de bons conseils en fonction des personnes.
Ils vous ont pas dit tu devrais faire comme si,
Si. Malheureusement, oui, ça arrive. Pour autant, on y est des fois sensible et on a tendance à les écouter, même si c'est pas toujours les personnes les plus adaptées. Mais c'est vrai qu'on y est sensible.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Vous avez combien d'enfants ?
Alors, 2 enfants.
Ils ont quel âge ?
Le petit, il a 7 ans et la grande, elle a 10 ans.
Votre enfant fait une crise en public. Comment vous gérez le regard des autres ?
Alors, c'est déjà arrivé beaucoup de fois. Moi, c'est vrai que maintenant, je fais plus attention. Donc, je vais vraiment au bout de ce que je dis. Donc, s'il faut qu'il soit puni devant tout le monde, il sera puni devant tout le monde. Je fais plus attention au regard des autres, en fait.
Avant, vous le faisiez, ça ?
Au début, oui. Après, j'étais une jeune maman. Donc, quand on est jeune, c'est difficile des fois de se positionner. J'ai déjà eu des réflexions dans les magasins. Aujourd'hui, je fais plus attention. Voilà, je sais où je vais, je sais pourquoi j'ai dit non. Donc, je vais jusqu'au bout.
Et vous vous êtes sentie comment face à ces réflexions à ce moment-là ?
Agacée, parce que une fois, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a fait une grosse crise dans un magasin et une mamie qui venait vraiment de... Je sais que c'était bienveillant, qui m'a dit, mais en fait, peut-être qu'elle fait une crise d'hypoglycémie, il faudrait lui donner des bonbons. Alors qu'en fait, je lui avais dit non pour... je crois que c'était un jouet. Et en fait, ça m'a un petit peu agacée. Mais en fait, je pense que comme j'étais jeune, les gens se permettent un petit peu plus. Et quand on est jeune et qu'on a des enfants en bas âge, des fois, on n'a pas vraiment confiance en nous. Mais donc voilà, j'étais un peu agacée, mais j'osais pas trop, en fait, répondre. Et je voulais juste qu'elle arrête de faire la crise. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je vais vraiment au bout de ce que j'ai dit.
Les conseils des autres parents ou de la famille ou de l'entourage, est-ce que ça vous agace ?
Alors, ça dépend lesquels, mais non. Après, à partir du moment où c'est des critiques constructives, ça ne m'agace pas du tout. Au contraire, je pense qu'échanger avec des personnes qui ont été parents ou qui sont parents de jeunes enfants aujourd'hui, je pense que ça peut être que constructif. Après, c'est comme tout, voilà, il y a des gens qui se permettent parce qu'ils savent mieux que vous, voilà. Mais sinon, je prends en général les conseils. Je pense que c'est bien d'échanger avec d'autres parents aussi.
D'accord. Donc ça vous apporte plus que ça vous...
Aujourd'hui, oui, je pense que je suis entourée quand même par de bonnes personnes qui m'apportent quand même plus que
voilà. Que les critiques malveillantes.
Oui, voilà, ça reste très... Pour moi, c'est constructif de partager avec d'autres parents qui... Voilà.
Je vous remercie.
Mais de rien.
Voilà les différents commentaires des parents sondés, Anne-Marie, par rapport à ce thème, le regard des autres. Tout parent a déjà vécu cette situation, son enfant qui fait une crise dans un supermarché ou dans la rue ou autre.
Oui, je crois qu'on a tous, en tant que parents, vécu ce moment où notre enfant fait une crise pour X ou Y raison, qu'on n'a plus bien identifié généralement, et que là le passant il arrive, oh, qu'est-ce qu'il est mal élevé, voilà, moi j'aurais déjà mis 3 claques, enfin voilà, on a tous eu ce moment où l'autre intervient sur nos enfants, un moment difficile à gérer, et que du coup ça provoque quand même une émotion parfois un peu forte chez le parent, quoi, où, voilà, on se sent clairement jugé par l'autre qui nous connaît pas d'ailleurs.
Ça peut mettre du doute, ça peut mettre aussi de la culpabilité. C'est quelque chose qui vient en tout cas ébranler la confiance qu'on peut avoir des fois. Aussi dans le sein familial, on parle de ce qui peut se passer en crise à l'extérieur, mais aussi à Noël, les enfants reçoivent des cadeaux et « Oh, ils font pas les bisous !» Oh, il y a des petites réflexions comme ça. Elle parlait aussi, il y a une maman qui disait « Quand on est jeune parent, on y est particulièrement sensible par rapport, par exemple, à l'allaitement. Ah oh, bah tiens, tu allaites. Ah tiens, t'allaites pas. T'allaites encore. » Il peut y avoir plein de petits... tips comme ça qui sont très discrets, qui sont finalement, mais qui touchent et qui, quand l'enfant est en train de pleurer ou d'être en difficulté, peut nous faire perdre parfois la confiance dans les repères qu'on peut avoir ou dans notre attitude qui serait naturelle et du coup qui fait que on est moins spontané et la prise en charge des besoins de l'enfant, des fois on est plus en difficulté.
Ce qu'on remarque dans les différents témoignages, c'est que souvent c'est plus mal vécu, encore plus mal vécu quand c'est des gens qu'on connaît. ces petites réflexions justement dans anodine pendant le repas de Noël ou de famille ou on va dire ah ben dis donc moi si j'étais toi je ferais comme ça ou moi j'avais jamais fait comme ci ou voilà parce que l'autre personne certainement puisqu'on le connaît compte aussi pour nous donc c'est plus mal vécu souvent que c'est ce passant qui passe là un peu par hasard voilà.
qu'on ne connaît pas et donc du coup ça peut être on peut noter une petite indifférence de ce côté là
Puis j'ai trouvé très juste ce qu'elle disait la dernière maman dans son témoignage c'est la confiance en soi. Voilà, aussi, c'est que quand on est plus affirmé, plus sûr de soi, l'autre compte moins. Voilà, on est moins fragile à ce niveau-là. Et donc, voilà, je pense que c'est un des premiers facteurs importants à retenir, c'est avoir confiance en soi, l'estime de soi qui est important pour que ça ne nous met pas en grande difficulté.
Oui, puis cette confiance en soi, en plus, elle peut être très utile pour justement gérer la crise. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, lorsqu'on est un peu plus sûr de soi, la crise peut être moins longue, hein, c'est un peu pour élargir, mais moins difficile à gérer. Et puis l'enfant se rend compte que le parent, il va pas modifier, pas changer de parole, hein, que c'est comme ça et pas autrement. Et ça peut aussi avoir des effets positifs sur la manière dont la crise va se développer. Hein, un parent qui est vraiment en perte de confiance et en plus on rajoute l'effet de regard des autres, l'enfant voit aussi ça, hein, l'enfant observe et est présent dans la scène et du coup peut utiliser aussi cet environnement là pour en rajouter un peu théâtraliser, hein, parce qu'on sait aussi qu'il y a un peu ce côté là qui peut arriver, un enfant qui va vraiment hurler très 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 fort parce que comme il y a une personne qui s'est arrêtée qui a fait une remarque, l'enfant, il dit, tiens, ça intéresse, je suis au centre de l'attention.
Une sorte de provocation.
Et du coup, voilà, il vient rajouter, pousser les cris un peu plus fort, taper du pied, enfin voilà. Et ça, c'est particulier, mais c'est tout un ensemble, en fait, de facteurs qui vont faire que, en tant que parent, on est plus ou moins en difficulté, quoi.
Alors, est-ce que le parent peut se poser un petit peu dans sa tête et se dire, bon, là, comment je dois réagir? Ou alors, des fois, il intervient automatiquement. Enfin, voilà, c'est...
Sur le moment, c'est toujours compliqué hein, de prendre du recul et de... Voilà, mais bon, je pense qu'on va... Tôt ou tard, en tant que parent, on y est confronté. Donc, quand ça nous arrive, c'est peut-être effectivement à se poser le soir, à dire qu'est-ce qui s'est passé, déconstruire un petit peu la scène, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ou pas, pour que la prochaine fois, on sache mieux réagir, qu'on y soit plus préparé. C'est vrai que sur le moment, ça me semble quand même assez compliqué de tout faire en même temps. On est occupé là avec son enfant à gérer la crise, le regard des autres, potentiellement d'autres enfants aussi qui voilà. Quand on a plusieurs enfants, voilà. Mais par contre, de se poser tranquillement après une fois que c'est passé, qu'on est à la maison, qu'on a un moment pour soi. Et de déconstruire un peu tout ça et de voir ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, ça, je pense que ça peut être un outil intéressant.
Oui, et puis aussi travailler sur cette culpabilité ou ce doute que ça peut mettre quand on est en train d'être regardé, savoir dans quel état ça nous met, aller faire une exploration un peu émotionnelle, se dire, ah oui, mais en fait, à la maison, je l'aurais géré. Là, je savais pas comment faire parce que j'avais trop peur, trop gênée, trop de honte, finalement. Et donc du coup pouvoir vraiment aussi être bienveillant avec soi-même en disant ok, là j'ai pas géré, j'étais dans tel état, et puis faire du bien avec ça, quoi, se dire ok, j'étais dans tel état, et comme tu disais, pouvoir après dans un autre temps se dire bon bah là une autre fois j'essaierai de réagir autrement, mais prendre en compte cet état
après N'oublions pas non plus que le regard social, il est très fort dans la parentalité. Hein. C'est d'un point de vue beaucoup plus sociologique. Le parent est quand même évalué, observé, jugé de par les autres, mais aussi de par les politiques, de par les lois. Voilà, la loi contre la fessée, par exemple. Mmh. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que le parent, de toute façon, se sent en permanence quand même pris dans une pression sociétale d'être bon parent, de respecter les besoins de l'enfant. Il y a des droits, il y a des devoirs. Si on lit la Convention des droits de l'enfant, c'est abyssal hein, ce qu'on demande à un parent. Ça vient aussi se générer encore plus de difficultés dans le sens où la parentalité d'aujourd'hui, elle est très individualisée. Il y a beaucoup moins le côté collectif où on peut s'appuyer les uns sur les autres comme c'est le cas dans d'autres cultures. C'est un sujet qu'on va aborder une autre fois. Il y a des parentalités collectivistes hein, dans certains continents. Nous, on est dans une société où c'est très individualisé, où du coup on ne s'autorise pas non plus à aller se demander de l'aide, ou en tout cas les personnes qui vont observer une scène ne vont pas avoir forcément une démarche de nous aider dans ce qui est en train de se jouer. On pourrait aussi avoir des gens qui se posent en disant madame c'est difficile là, et c'est extrêmement rare. Et quand on parle de regard, il y a parfois même pas de parole, il y a juste un regard. Il y a des regards extrêmement accusateurs, extrêmement malveillants, qui peuvent être extrêmement déconcertants pour des parents qui sont un peu en fragilité, ou des jeunes parents avec la question d'être jeune parent et plutôt des parents, on va dire, a guéri. C'est vrai qu'une maman qui a son premier enfant et qui effectivement vit une scène avec son enfant va peut-être pas gérer de la même manière qu'une maman qui a déjà trois enfants et c'est son troisième enfant. Et on voit des scènes, moi j'en ai déjà vu, de mère ou de père, l'enfant fait une crise, le parent il est à côté, il continue à faire ses courses, il laisse un peu en plan petit. Il l'abandonne pas, c'est pas ce que je dis, mais voilà, il se déplace un peu et puis l'enfant au bout d'un moment il s'arrête. Voilà, je pense qu'il y a aussi ça, il y a aussi l'enfant, il voit ce que ça fait à l'enfant, à son parent, c'est ce que disait Léa, et il va s'en servir aussi. Mon parent, ça le met en difficulté, ça nourrit aussi l'émotion de l'enfant.
Il y a une interaction, ça circule.
Mais on est quand même dans une société extrêmement individualiste.
Effectivement, et puis l'éducation est un sujet où tout le monde a toujours son mot à dire. Alors, je prends souvent le métaphore du match de foot. Quand on voit, ils sont, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il aurait fallu, alors l'arbitre est pas bon. Le coach, lui, il a pas fait les bons choix. Tout le monde sait mieux, sauf que l'entraîneur, qui lui est professionnel finalement, c'est lui, c'est son métier, mais tout le monde sait mieux que lui. Et bien, dans l'éducation, c'est un peu la même chose. Tout le monde sait comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et faut faire comme ci, comme ça, ça a toujours marché dans le passé comme ça, pourquoi on changerait aujourd'hui, etc. Sauf que, sauf les professionnels en fait, sauf les vraies personnes formées, où on ne demande pas forcément leur avis, ou ce qu'ont démontré les études, etc. Non, tout le monde a son mot à dire, et tout le monde sait mieux que l'autre, et on va défendre son point de vue coûte que coûte sur le sujet, ce qui met évidemment certains parents, comme elle vient de dire Maud, un peu moins expérimentés dans une première parentalité, parfois à rude épreuve de savoir qui quoi croire, comment faire, enfin voilà.
Oui, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne ou mauvaise éducation,
pas du tout.
Et d'ailleurs, il y a aussi les générations. Les différences de génération. On parlait tout à l'heure, la grand-mère, la tante. En fait, les fossés générationnels, c'est sûr que des fois, peuvent entraîner des jugements. Maintenant, ce que j'invite souvent les parents qui viennent en atelier, c'est d'identifier ce qu'est un jugement. Un jugement, c'est une réaction émotionnelle qu'on raccourcit et on va l'envoyer avec une phrase de « c'est trop, c'est pas assez, c'est... » Et donc, du coup, de pouvoir juste replacer le jugement à ce qu'il est, c'est-à-dire une réaction émotionnelle. Donc, quand quelqu'un arrive avec un jugement, c'est qu'il est en train de vivre quelque chose émotionnellement. Juste, et il le dit pas d'une façon juste, il dit pas, je suis gênée ou je suis choquée. Il va arriver et il va dire, c'est quoi ce caprice, tu gères pas, etc. Et ça aide aussi à pouvoir remettre à l'autre, c'est ton jugement, c'est ton avis sur la situation, moi, je suis en train de m'occuper de mon enfant et de rester là avec lui. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider.
On va faire une pause musicale, si vous voulez bien. Nous avons choisi Christophe Willem dans Le regard de l'autre.
Dans le regard de l'autre, j'ai cherché un repère, j'ai cherché à me plaire, j'ai cherché des apôtres.
Dans le regard de l'autre,
dans le regard de l'autre, une lumière a brillé, une manière de m'aimer dans laquelle je me vautre.
Dans le regard de l'autre,
ne reste qu'un miroir pour ajuster ma danse, pour maquiller l'histoire. Jouer des apparences dans le regard de l'autre. J'ai plongé tout mon corps et le soir je m'endors en soupirant mes fautes. Dans le regard de l'autre, mon amour propre a pris sa place en catastrophe, en cataplace. Dans le regard de l'autre, je fais mon numéro. Je compte encore qui est le plus beau, qui est le plus fort. Dans le regard de l'autre, je joue la comédie. Dans mes plus beaux habits, je défie tête haute.
Dans le regard de l'autre,
dans le regard de l'autre, je n'ai pas voulu voir ces centaines d'histoires qui sont toutes les nôtres.
Dans le regard de l'autre,
par peur ou simplement par manque de confiance, je cherche un compliment pour aller dans son sens, pour être fier de moi, pour ne pas prendre peur à mes goûts, à mes choix. Je lis tous les regards dans le regard de l'autre. Mon amour propre a pris sa place en catastrophe, en cataplace. Regarde l'autre, je fais mon numéro. Je compte encore qui est le plus beau, qui est le plus fort. Dans le regard de l'autre, mais là je vous regarde. Enfin je vous contemple. Et mes yeux se baladent. Je vois bien qu'on se ressemble dans le regard de l'autre. Rares sont ceux qui percent, comme nu apparaissent, que la peau sur les côtes. Dans le regard de l'autre, mon amour propre a pris sa place en catastrophe, en cataplace. Dans le regard de l'autre, je fais mon numéro. Je compte encore qui est le plus beau, qui est le plus fort. Dans le regard de l'autre, dans le regard de l'autre,
c'était donc Christophe Willem avec Le regard de l'autre dans cette émission Conseil de famille sur Radio Lodève. Le regard des autres, les parents face au jugement, c'est le thème de cette émission. On a parlé de cette situation des parents vis-à-vis des enfants. C'est peut-être encore un petit peu plus compliqué avec des enfants un peu particuliers aussi de se confronter à cette situation de crise.
Tout à fait. Quand on a des enfants à des besoins particuliers, comme on dit, en situation de handicap, ayant des troubles du comportement importants, ce regard de l'autre est encore beaucoup, beaucoup plus présent parce que, justement, l'enfant est beaucoup plus turbulent, on va dire les choses un peu comme ça, hein, parce que, bon, voilà, il y a des cas très différents. Et le parent peut même rentrer dans une espèce de cercle vicieux avec une peur et presque une phobie de sortir avec ses enfants à l'extérieur et s'enferme à l'intérieur de sa maison et ne fait plus du tout d'activité. Donc ça, on l'entend assez souvent quand même dans nos
métiers, oui.
Dans nos situations. Oui. Alors voilà, on voulait aussi aborder ce sujet-là justement. Comment faire alors du coup pour ressortir de nouveau de chez soi? Bon, on a des petites pistes, hein,
Maude, quelques conseils, oui.
Oui, ou même Léa, tu disais qu'il y avait une situation, sur Gignac, tu avais connaissance d'un collectif de mamans, enfin de parents qui s'étaient réunis justement pour se soutenir les uns les autres.
C'est ça, accueilli par... Ouais. C'est une maman qui est venue au réseau et qui a demandé au réseau et qui s'est montée avec plusieurs parents et du coup au centre social du Metz Cladis à Gignac. Et ils ont un espace-temps où ils se réunissent ensemble et là, en fait, et ben, ensemble, ils font des habituations pour aller par exemple à la bibliothèque, pour aller dans des endroits où ils y vont d'abord quand il n'y a personne, ils y vont ensemble quand il n'y a personne, et surtout ce qu'ils ont retrouvé, c'est que comme ils sont tous ensemble, eh bien, ils se soutiennent les uns les autres, on voit la coparentalité qui arrive, où il n'y a pas de jugement parce que la réaction émotionnelle est trop grande.
Oui, puis du coup, c'est collectiviste, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure.
Oui, c'est ce que tu disais
Effectivement, c'est un très bon conseil en soi. Ensemble. Alors, quand on n'a pas de collectif sur notre territoire, tout ça, c'est sortir avec ses enfants, par exemple, aux courses, mais sans faire les courses. Voilà, ne pas se mettre l'objectif en plus des courses, mais d'aller au supermarché et de se mettre complètement aux besoins de son enfant, de l'habituer à ce lieu-là, de lui dire quelles sont les règles de ce lieu et le faire plusieurs fois avant de réellement aller faire les courses avec ses enfants, par exemple. Savoir s'entourer aussi de bonnes personnes. Hein. Quelqu'un qui vous accompagne à ce moment-là pour le faire. Soit des professionnels, parce que certains peuvent, voilà, au PRE par exemple, on le fait avec des parents hein, pour refaire des expériences positives. Mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance et le faire avec quelqu'un que vous ne vous sentez pas débordé par la situation.
Il n'y a pas de vraie solution quand même, mais on peut, en discutant avec les uns les autres, avec d'autres parents, peut-être trouver des solutions.
Oui,
que ça se passe mieux.
Que ça soit avec des enfants ayant des besoins spécifiques ou pas, mais je rebondis aussi sur le côté de parents qui ont plusieurs enfants aussi, c'est de pas hésiter à peut-être ne pas prendre tous les enfants en même temps, hein, parce que des fois on voit des scènes aussi où il y a une famille avec 2-3 enfants, ça se bagarre, voilà, ça chahute dans les rayons, ça touche à tout. Bon, est-ce qu'on peut aussi organiser autrement ce moment-là en disant à la famille ou à une voisine ou quelqu'un de son entourage, si on en a évidemment, de peut-être pas prendre tous les enfants en même temps pour justement éviter ce genre de scènes qui peuvent très vite être compliquées, hein, pour un, et puis ça rend excitable aussi, ça excite l'enfant. Moi j'ai toujours, on prenait l'exemple des courses, mais j'ai quand même souvent ce questionnement de me dire, mais est-ce que les courses, alors ça c'est mon avis très personnel, hein, c'est pour moi c'est pas un lieu forcément idéal pour aller emmener les enfants. Franchement, c'est bruyant, c'est très excitant, hein, le lieu course. Hein,
c'est très stressant.
C'est hyper stimulé, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement. Moi-même, quand j'y vais seule, je suis épuisée à la fin, franchement. Donc je me dis, un enfant qui a passé la semaine à l'école ou la journée à l'école, on lui fait faire une heure de course derrière, est-ce que ça a du sens? Enfin, à un moment donné, c'est aussi se questionner sur ce que la charge que ça demande, de se poser, de continuer.
Je suis entièrement d'accord.
Mais des fois, on peut pas faire autrement.
On peut pas
attention,
faire autrement.
Hein,
voilà,
je suis d'accord.
On a pu avoir des témoignages de parents, là, justement, qui sont solos. Tout à fait.
Savoir s'entourer, c'est pareil. On n'est pas tous égaux face aux ressources, on va dire, les personnes ressources disponibles dans notre entourage.
Tout à fait.
Donc, quand on ne peut pas faire autrement, faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, c'est un apprentissage. Je pense que s'il faut se tenir ça aussi en tant que parent, on apprend au fur et à mesure à gérer les choses, hein, et ne pas se mettre la barre trop haute.
C'est ça.
On a tous vécu ces moments-là et on s'en est tous sortis aussi. Voilà, hein, de se faire confiance et de se dire on va y arriver. Et voilà, ne pas mettre la barre trop haute face à la pression sociétale aussi, où on doit être parfait toujours. Non, on fait tous des erreurs.
Et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit au supermarché, mais que ce soit aussi à la maison lors de réunions de famille ou avec le voisin qui a un regard quand on passe juste... Effectivement, on fait du mieux qu'on peut aussi.
Finaliser par un tout dernier conseil concernant ce qu'on disait, c'est que voilà, quand on ne peut pas faire autrement, c'est pour avancer un peu ce que disait Anne-Marie, c'est peut-être prévenir l'enfant aussi, dire voilà, on va aller faire les. Je suis obligée d'eux, je sais que tu es fatiguée, on est fatigué, et tu vois, après, on fera un truc sympa. Je ne sais pas, ça peut être voilà, on se pose, on va manger un super truc que tu aimes, ou choisir. Tiens, choisis le repas de ce soir. Je sais pas. Enfin, essayez comme ça de
pour lui faire plaisir.
Ça peut être quelque chose qui peut le.
On peut lui donner une tâche aussi. Tâche. Pour les courses, ça
va chercher le pain, va chercher ça. Ils aiment ça, bien ça les enfants. Voilà, ça, tous les petits qui aiment bouger, allez leur demander d'aller acheter. Et puis du coup, vous pouvez faire même des sélections. C'est quoi un concombre, c'est quoi une courgette. Enfin bref, on peut jouer aussi.
Oui, nous, on avait mon mari. Il faisait visiter le magasin aux poupées. Donc mon fils, il choisissait une poupée, il faisait visiter, après il lui disait t'as vu, on lui a fait visiter, hop elle rentre chez elle, elle va dormir avec les copines et hop il repartait et mon fils était ravi d'avoir pu faire visiter tout le magasin à la poupée et ils mettent de l'imaginaire quand ils sont petits sans avoir peur de la crise parce que du moment que cet imaginaire on le continue, c'est-à-dire bah non il va pas venir avec nous, regarde il a tous ses copains là, il a envie de rester avec eux, paf, l'enfant en tout cas nous le nôtre. À ce moment-là, ça a fonctionné. Et des fois, on peut donner des outils. Ça ne marche pas à chaque fois, ça ne marche pas tout le temps. Mais les fois où ça marche, c'est très agréable.
C'est ça.
Voilà, donc c'est sur ces conseils que l'on va se quitter. Peut-être un petit peu d'actu, Anne-Marie.
Oui, alors, nous avons le dernier atelier couture pour préparer le carnaval. Donc, c'est un atelier parentalité, évidemment. Hein. Entre parents, nous préparons des banderoles pour le grand défilé du carnaval qui, lui, a lieu le 9 février. Et ce dernier atelier, il se tiendra le 1er février de 14 à 16 heures à l'espace Luteva. Vous êtes le bienvenu, débutant, expérimenté, on a besoin de bras pour préparer ces jolies banderoles et que le carnaval soit haut en couleur.
Voilà, le message est bien passé.
Je voulais juste rajouter qu'on a des ateliers
avec Grandir Ensemble,
on vous propose des ateliers de parole qui s'appellent les parents partagent, qui sont au Luteva à l'Odev. Et donc, les dates sont affichées sur notre site internet et on va aussi mettre des affiches dans l'ODEV. Donc, vous aurez très vite les informations. Voilà.
Merci beaucoup, Léa Baltus, accompagnante à la parentalité et formatrice en éducation relationnelle et émotionnelle de l'association Grandir Ensemble. Maud Fréchoux, psychologue de l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault, qui intervient sur l'ODEV et peut-être aussi un petit peu partout sur le territoire.
Oui, alors en fait, nous, on a notre point écoute et notre point accueil écoute jeune tous les mardis sur le CIAS de l'ODEV de 9h à 18h. Et après, on a tout un tas de permanences sur le département. Il faut aller sur le site de lepe34.com.
Merci. Et Anne-Marie Stams, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative au CCAS de l'ODEV. Merci beaucoup.
Merci.
Et on se retrouve le mois prochain pour aborder un nouveau thème. Merci à Cédric, à la technique et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.